Une semaine d'actualité. Ludovic Dunot.
Bonjour à tous, revivons ensemble l'actualité des 7 derniers jours. Cette actualité en ce samedi 8 août 2020 va nous mener au Liban, aux États-Unis, au Brésil, en Inde, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire entre autres. Et sans dire que nous ferons un tour du monde sur le coronavirus, nous allons bien sûr consacrer à cette crise qui touche la planète entière un module spécial. Pour regarder comment le monde a bougé cette semaine, Marilyn Baumard est avec moi en studio. Bonjour Marilyn.
Bonjour Ludovic.
Alors vous êtes directrice du Monde Afrique, c'est-à-dire le service Afrique du grand quotidien français. L'Afrique qui est le seul continent à avoir un service dédié dans votre journal, avec 15 journalistes à Paris, 25 sur le continent. Vous avez co-dirigé un magazine hors série qui vient de sortir, dont RFI et France 24 sont partenaires, et qui s'appelle l'Atlas des Afriques. C'est un travail conjoint de votre rédaction et de celle du magazine La Vie, qui appartient au même groupe de presse que Le Monde. Ce hors série, l'Atlas des Afriques, a 182 pages. Comme tout bon atlas, il regroupe des cartes. Il y en a 200. Elles sont accompagnées d'articles et c'est une belle vision, large panorama du continent. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure ?
Une aventure qui en fait est tout à fait logique quand on la replace dans l'histoire du Monde Afrique. Le Monde Afrique, il a été créé il y a 5 ans pour essayer de donner un regard un peu plus positif sur l'Afrique, parce qu'en fait, quand on feuillette le quotidien Le Monde, on se rend compte qu'il y a 5 pages, 6 pages d'actualité internationale, les bons jours, et quand on a 6 pages d'actualité pour raconter la planète, on ne raconte que ce qui va pas. Or, vous connaissez l'Afrique comme je la connais, et on sait qu'il y a une énergie folle, qu'il y a énormément de choses qui vont bien, que c'est le continent de demain, qu'il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne raconte pas, que la presse française ne racontait pas. Donc, le Monde Afrique, avec ses 10 articles gratuits chaque jour, essaie de raconter toutes ces choses-là. Et puis, je suis un petit peu âgée, comme vous le voyez,
c'est et pas que... vrai, c'est faux.
Vous êtes gentil. Et que j'aime... l'écrit, que j'aime les beaux produits, on s'est dit qu'il nous fallait un atlas, il fallait qu'il y ait aussi une concrétisation papier qui regroupe cette vision de l'Afrique, sa profondeur historique, sa richesse, son dynamisme et tout ce que ne raconte pas la presse au quotidien. Donc vous voyez, en fait, il y avait une grande logique à inventer et à créer cet atlas des Afriques.
Vous parlez de la profondeur historique, tout le début de ce magazine hors série est consacré aux histoires de l'Afrique. Là aussi, on va le mettre au pluriel. Et bien sûr, on est encore marqué par la traite négrière, par la colonisation, mais dans le temps très long de l'histoire, c'est une période finalement assez courte, qui est marquante, terrifiante, mais assez courte. Et justement, vous prenez le temps de dire et d'expliquer au grand public, français notamment, que l'Afrique a bien une histoire, qu'il y a eu des royaumes très importants et très florissants.
Tout à fait, et ça c'est quelque chose d'important, parce que moi vous savez, ça fait 2 ans que je suis arrivée à la tête du Monde Afrique, et je me rends compte que ce continent est totalement méconnu. Il est méconnu, comme vous le disiez, parce que en termes historiques, à l'école, ou dans le supérieur, ou au lycée, on étudie la colonisation, la décolonisation, au mieux, et puis, point final, un petit peu de traite négrière avant, et on ne sait rien d'Abou Simbel, on ne sait rien, vous voyez, de tout ce qui a précédé, de toute cette profondeur.
Des grands royaumes du Moyen-Âge, de toutes ces routes commerciales qui ont été si importantes, à une époque où une partie de l'Afrique détenait une grande partie du commerce aussi.
Voilà, ça c'est une histoire qui a été complètement gommée, et qui aujourd'hui est très très fortement oublié. Donc il nous a semblé important, même si on a un président qui nous a rappelé il y a quelques années que l'homme africain n'était pas encore entré dans l'histoire, eh ben si l'Afrique est dans l'histoire depuis bien plus longtemps qu'on ne voudrait le croire. Et je voudrais souligner aussi que cet atlas, c'est un travail de journaliste, mais c'est aussi un travail de chercheur, et qu'on a mis à contribution les meilleurs spécialistes sur tous ces sujets, parce que nous on écrit histoire en direct, mais justement toute cette histoire passée, il faut pouvoir la raconter avec justesse.
Alors commençons à parcourir ensemble l'actualité de la semaine écoulée. Nous irons bien sûr en Afrique. Mais revenons d'abord sur le choc terrible qui a frappé les Libanais mardi en fin d'après-midi. Une double explosion dans le port de Beyrouth, dont celle de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium provoquant des dégâts sans précédent, faisant au moins 149 morts et 5000 blessés, sans oublier les disparus et les centaines de milliers de sans-abri. Marie-Josée Sader, une journaliste indépendante franco-libanaise, était à quelques rues de l'explosion. Cet événement intervient alors que le pays est déjà touché par la pandémie de Covid-19 et qu'il traverse une grave crise économique. Son témoignage a été recueilli par Fanny Blechner.
Là, je ne sais pas vraiment comment on va s'en remettre après ça. Déjà, moi qui viens de Paris, qui étais venue soutenir ma famille, je ne fais que nager dans des discours négatifs, désolants, des licenciements par-ci, des gens qui ont été mis dehors par-là, des loyers qui n'arrivent pas à être payés. Enfin, c'est toute cette ambiance de tristesse dans laquelle baigne le pays, puis les espoirs de la révolution qui n'ont pas porté leurs fruits jusqu'à présent. Une classe politique qui ne bouge pas face à la souffrance des gens. Et là, on est frappé physiquement dans la chair. C'est-à-dire que c'était vraiment la dernière des choses que les gens pouvaient supporter actuellement. Il fallait voir le regard des gens dans les rues. Tout ce que je me disais, moi, c'était vraiment... Non, c'est pas possible que ça arrive encore, quoi. C'est pas possible que ça arrive également. Les hôpitaux sont saturés. Beaucoup de gens ont souffert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Les aides d'urgence internationales arrivent et se déploient à Beyrouth. Le président français Emmanuel Macron a été le premier chef d'État étranger à se rendre sur place. La classe politique française est déjà critique envers ses propos. Et bien sûr, Beyrouth panse ses plaies. Trois jours après la double explosion, les habitants s'organisent eux-mêmes pour nettoyer les rues, réparer les habitations et s'entraider. Beaucoup dénoncent un manque cruel d'aide du pouvoir public. Pierre Olivier est notre envoyé spécial.
Dans le centre de Beyrouth dévasté, aucune pelleteuse, aucun engin de chantier, mais des centaines d'habitants, un simple balai à la main.
Personnellement, je suis en train d'aider les vieillards à ranger leur maison et tout. Parce que, comme tu vois, il y a du verre partout et c'est très dangereux.
Rami H, a 29 ans, il est photographe et a fait 40 minutes de voiture pour venir prêter main forte. Il ne croit plus à une aide des pouvoirs publics qui tarde à venir.
L'État est en train de rien faire. Il n'y a que les gens et la société qui est en train d'aider, de s'entraîner. Pour en finir. Si j'ai l'énergie pour faire ça, il faut que je l'utilise. Il n'y a personne qui peut nous aider, alors il n'y a que nous.
Quelques rues plus loin, c'est la désolation à l'hôpital Saint-Georges. Alexandre Némé, le directeur, a préféré créer une cagnotte en ligne pour éviter d'éventuels détournements de fonds par le pouvoir.
C'est pour ça que l'hôpital a créé une page web pour les gens qui souhaitent faire des donations et ça nous revient directement.
Devant des montagnes de décombres ce jeudi, nombreux étaient les volontaires à espérer que cette nouvelle crise qui s'ajoute à la crise financière fera naître un sursaut chez les Libanais pour renverser le pouvoir en place.
Marilyn Beaumard, directrice du Monde Afrique, cette catastrophe a des répercussions aussi en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest où, on le sait, vit une importante diaspora libanaise.
Oui, tout à fait. L'onde de choc est arrivée jusque là-bas et c'est vrai que vous nous faites entendre des témoignages du Liban que nous, on a, au Monde Afrique, voulu aussi regarder ce qui se passait à Dakar, par exemple, puisque Dakar, c'est le point principal. Le Sénégal, c'est le pays où sont regroupés le plus de Libanais et qu'on se rend compte que dans cette communauté de peu près 30 000 personnes, puisqu'il y a eu deux grosses vagues, mais les Libanais sont là-bas en Afrique de l'Ouest depuis la fin du 19e. Donc ils sont très très ancrés et ils sont très malheureux. On les a écoutés qui essayaient de mettre en place une aide pour venir en aide donc à leur famille au Liban. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble aussi intéressant au Monde Afrique, c'est que l'Afrique, c'est pas le continent qui toujours a besoin d'aide. C'est aussi le continent qui est là, lui, pour aider quand on a besoin d'aide à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, qui s'illustre de soi. Et franchement, c'est un drame absolu, hein, ce qui se passe au Liban aujourd'hui. Et c'était déjà une situation très très difficile, comme l'ont montré tous les reportages qu'on a pu entendre depuis. Mais réellement, les Africains, les Libano-Africains sont là aujourd'hui pour leur famille là-bas.
Alors on parle de diaspora, parlons maintenant aussi de la diaspora africaine. Dans cet atlas des Afriques qui vient de sortir ce numéro hors série, il y a une double page sur les diasporas, un nouvel atout pour le continent, c'est le titre. Et déjà, ça commence un peu fort, on est sur un atlas, il y a une carte, et il fallait choisir entre deux définitions, parce qu'il y a deux définitions de la diaspora africaine, une très large et une beaucoup plus restreinte.
Oui, alors, qu'est-ce que la diaspora ? C'est vrai qu'on se pose souvent la question que nous, nous-mêmes, on se l'est posée et on se la pose souvent quand on veut travailler sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas ramener à leur origine des gens qui n'ont pas envie d'y être amenés. Si on vit depuis 3 générations en France, qu'on a une famille issue du Sénégal, on n'a pas forcément envie qu'on nous ramène à ça.
Si... Une origine et une diaspora, c'est pas tout à fait
mais
la
non,
même chose.
Mais non, c'est pas la même chose. Donc, c'est vrai que nous, on s'est dit, ben, la définition qui nous convient aujourd'hui pour travailler sur les diasporas, ce sont des gens qui, oui, ont une origine familiale extérieure à la France, mais surtout qui sont rattachés et qui vivent ce lien avec les pays d'origine. Donc, vous voyez, on se met un petit peu à mi-chemin entre ce que propose l'OCDE et ce que proposent d'autres services comme l'INSEE en matière de statistiques. Pourquoi ? Tout simplement pour essayer d'intégrer, et c'est notre travail de journaliste, on n'est pas des statisticiens, mais essayer d'intégrer le regard et l'approche qu'ont les gens. Alors, c'est vrai que cette diaspora africaine, c'est 170 millions de personnes.
Alors, ça, c'est le chiffre le plus large. Hein.
Tout à fait, le chiffre le plus large.
Ça comprend les afro-descendants de tout le continent américain,
oui.
Du nord, du centre, de la Caraïbe et du sud.
Tout à fait. Et dans ce cas-là, on est à peu près à près de 5 millions en France, c'est-à-dire pas loin de la moitié de la diaspora africaine qu'il y a en Europe. Donc, c'est absolument conséquent.
Et le chiffre le plus petit, si on ne prend que des ressortissants de pays africains qui vivent à l'étranger, c'est 40 millions.
Voilà. Donc, c'est beaucoup moins large. C'est 40 millions qui sont le nombre d'afro-descendants aux États-Unis, si on prend la définition la plus large. Donc, tout est très différent, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce lien. Pourquoi ? Parce que la diaspora, pourquoi elle est aussi importante, en fait ? Eh bien, parce qu'elle est capable d'apporter à l'Afrique 2 fois plus d'argent que ce que n'apporte au continent l'aide au développement. Et de souvent mieux ciblée pour le développement de l'Afrique que ne l'est une partie de l'aide au développement parce que les gens qui vivent ici sont en lien avec leur famille. Ils aident pas un pays, oui, ils aident un pays, mais ils aident surtout une famille dans ses besoins, c'est-à-dire qu'ils cernent ce qui est nécessaire, ils ciblent ce qui est nécessaire, quitte à inventer des choses, et là je pense à des start-upers, puisqu'ils sont nombreux en France, à avoir développé des applis ou ce genre de choses, par exemple pour payer la consultation du médecin, de la grand-mère à Dakar ou à Bamako. Donc vous voyez, ils ciblent vraiment, et leur réponse, elle est une aide immédiate au continent africain. Donc cet intérêt de la diaspora, il est quantitatif et il est qualitatif.
Vous voulez vraiment mettre en avant ce qui marche en Afrique et donner un autre regard sur l'Afrique, mais vous lui laissez toute sa complexité, parce que dans l'article qui accompagne les cartes sur les migrations, il est bien dit aussi que ces apports d'argent, ces transferts monétaires ont aussi des revers. Ils font monter le prix du foncier, le prix de l'immobilier. Enfin, tout n'est pas rose et vous n'avez pas fait un atlas tout rose.
Ah non, tout à fait. Peut-être que dans 50 ans, dans un siècle, on fera un atlas tout rose de l'Afrique. On l'espère. Mais non, malheureusement, les choses ne sont pas toutes roses et on ne veut rien gommer des effets négatifs qui peut y avoir, c'est certain. Et puis cette diaspora n'est pas assez écoutée par les pays, tous les ressortissants n'ont pas droit de vote pour les élections nationales de leur pays. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont pas et qu'on rappelle là.
C'est bien parce que vous soulignez toutes ces subtilités et ces complexités que ce hors-série est intéressant.
Sept jours dans le monde.
Jeudi, le Japon commémorait le 75e anniversaire de l'explosion de la première bombe atomique de l'histoire lancée sur la ville de Hiroshima. 3 jours plus tard, le 9 août 1945, c'était au tour de Nagasaki d'être bombardé. Pandémie de coronavirus oblige, les hommages aux victimes ont été réduits dans le pays. Keiko Ogura avait 8 ans quand la bombe est tombée sur Hiroshima. Elle est au micro de Bruno Duval.
La nuit du 5 au 6 août, les raids américains n'ont pas cessé. Nous avons donc tous dormi dans un abri antiaérien. Le matin, à 8h15, il y a eu une explosion énorme, puis un souffle terrible qui m'a projeté à terre. Ma tête a heurté un rocher, je me suis évanouie. Quand j'ai repris connaissance, tout autour de moi était dévasté et en feu. Il régnait un silence de mort. Et puis, il faisait très sombre. Or, on était en plein jour. Les habitants par milliers ont commencé à fuir le centre-ville. La plupart avaient des brûlures terribles. Beaucoup gémissaient. De l'eau, de l'eau. Deux de ces blessés sont morts devant mes yeux, en buvant l'eau que je venais de leur apporter. Il ne faut jamais donner à boire à des grands brûlés, mais je l'ignorais à l'époque, je n'étais qu'une enfant. Je croyais bien faire, mais j'ai tué ces hommes en essayant de les aider. J'en ai fait des cauchemars pendant des années. Depuis ce jour-là, trois questions me hantent. Pourquoi ne suis-je pas morte à Hiroshima? Pourquoi le 6 août 45, je n'ai pu sauver personne? Et pourquoi, 75 ans plus tard, les armes nucléaires n'ont-elles toujours pas été abolies? Pourquoi? Cela me met hors de moi.
L'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos, va quitter le pays, un exil volontaire accepté par Philippe VI, son fils. L'ancien roi d'Espagne, qui était respecté pour avoir mené la transition de la dictature de Franco à la démocratie, va s'exiler après que la justice de son pays a ouvert contre lui une enquête pour corruption. L'annonce de ce départ suscite bien évidemment des réactions chez les Espagnols venant de différentes provinces, comme Juliette Gerbrand l'a constaté dans les rues de Salou, la station balnéaire de Catalogne dans le nord du pays.
Ça me fait mal parce qu'il a fait beaucoup de choses bien pour l'Espagne et tout le monde devrait le remercier pour ça, tout le monde. Les gens ne devraient pas le maudire. Il a aidé tout le monde et maintenant on le jette. Ce n'est pas bien.
Ce roi est vraiment sans honte. Il avait pourtant dit que tous les Espagnols étaient égaux devant la justice. C'est un corrompu, un vrai corrompu.
Pour moi, la monarchie ne sert à rien. Donc qu'il parte ou qu'il reste, ça n'a pas de prise sur nous. Ces gens ne font rien et n'ont aucune influence. La seule chose qui me dérange, c'est qu'ils ne payent pas pour ce qu'il a fait. Je trouve que c'est très moche qu'il parte maintenant, au moment de la pandémie, alors qu'on est en pleine crise, et qu'il laisse la patate chaude à son fils. Je trouve que c'est très moche de finir ainsi.
Dans le grand feuilleton Donald Trump, la Chine et les réseaux sociaux, le président américain nous a proposé un nouvel épisode cette semaine. Jeudi, les États-Unis ont publié deux décrets interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec les groupes chinois qui détiennent les applications TikTok, très populaires chez les jeunes, et WeChat. Donald Trump a donné jusqu'à la mi-septembre pour que TikTok cède ses activités américaines à Microsoft. Mais d'autres applications chinoises pourraient être interdites, elles aussi, par les Américains, au nom de la sécurité nationale. L'éclairage de Myriam Berber.
Dans le collimateur des autorités américaines, il y a également le moteur de recherche Baidu, le concurrent asiatique de Google, Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, et AliExpress, l'application du géant chinois de la vente en ligne Alibaba. À cela s'ajoutent tous les logiciels de reconnaissance faciale. Toutes ces plateformes qui récoltent des données personnelles sont un nouveau front de la guerre que se livrent les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, les géants du web chinois, les BATX, sont en concurrence directe avec les GAFA américains en termes d'utilisateurs et de rentabilité. Cette décision de l'administration Trump va mettre un frein à leur conquête du marché mondial.
Marilyn Baumard, vous qui regardez comme nous l'actualité africaine avec attention, puisqu'on vient d'évoquer le numérique avec la bataille que livrent les États-Unis à la Chine. En Afrique, la transformation numérique est à la fois impressionnante et très inégale, et vous y avez consacré une double page dans cet atlas des Afriques que vous venez nous présenter aujourd'hui.
Oui. Parce que, en fait, c'est un élément, un maillon essentiel dans le développement de l'Afrique aujourd'hui. Il y a cette expression, vous savez, de leapfrogging, donc l'idée qu'il faut un saut et que
un saut de grenouille.
Tout à fait, un saut de grenouille et que l'Afrique est en train de réaliser ce saut de grenouille justement grâce au numérique.
C'est-à-dire qu'elle va
elle
sauter
zappe
une étape.
Voilà, exactement. Nous, nos continents se sont développés, révolution industrielle, là, et l'Afrique, elle aujourd'hui est en train, grâce...
Elle saute très largement l'étape de l'ordinateur de bureau et
mais
elle
oui,
passe tout de suite au smartphone.
Oui. Tout ce qui est lu du monde Afrique en Afrique est lu sur les smartphones. Donc ce qu'on voit, c'est que l'Afrique s'est très bien saisie en termes d'usage des smartphones. Il y a déjà plus de 500 millions sur 1,2 milliard d'habitants, 500 millions de personnes qui en utilisent. Et le numérique est présent puisque c'est déjà 10%, en gros entre 7 et 10% de la richesse des pays africains. Donc pour ça, tout se passe bien. Mais, il y a quand même des choses qui posent question, puisque vous nous parliez donc de cette guerre des GAFA. En fait, l'Afrique n'est pas du tout assez présente sur toute la chaîne du numérique. Elle ne conçoit pas, ou très peu, et elle ne fabrique pas les produits qu'elle utilise merveilleusement, puisque les smartphones, ils ont pensé les smartphones avec deux cartes SIM, vous voyez, ils ont inventé beaucoup de choses.
Il y a un premier smartphone rwandais 100% africain, mais qui est cher.
Mais tout à fait, donc les choses sont embryonnaires en la matière, et ça c'est quand même un vrai problème. Ça pose question, comme d'autres choses, comme tout ce data. Qui va utiliser toutes ces informations que les 1,2 milliard d'Africains vont mettre petit à petit sur en ligne,
oui,
et dans
aussi,
le cloud.
Oui.
Donc là, on est face à une vraie question. Et est-ce que l'Afrique peut décemment rester hors tous ces maillons de la chaîne? Alors, on se dit que peut-être l'Europe, qui elle aussi n'a pas vraiment un pied dans ces marchés-là, pourrait jouer quelque chose avec ce continent, parce que bon, on voit bien les prévisions démographiques, 1,2 milliard aujourd'hui, 2,5 milliards en 2050. L'avenir, le continent d'avenir, c'est l'Afrique, ça ne fait aucun doute.
Mais l'évolution numérique, la transformation numérique est très rapide, et pourtant il y a encore de gros freins. La connexion n'est pas évidente, les prix sont prohibitifs dans certains pays. D'ailleurs, vous avez une carte qui montre les différences de prix pour l'accès aux données. C'est assez stupéfiant de voir ces différences de prix d'un pays sur l'autre, dans l'Afrique subsaharienne notamment. Il y a les problèmes d'alphabétisation aussi, parce qu'il faut pouvoir lire tout ce que vous envoyez, que nous envoyons. Bien sûr, il y a aussi des vidéos, il y a des choses plus...
Et du podcast.
Exactement.
Ça... On s'y met, RFI est en pointe sur le sujet.
Mais malgré tout, derrière, il y a aussi toutes ces inégalités et tous ces problèmes qui ne sont pas résolus.
Mais c'est en ça que l'Internet est intéressant, parce que il reproduit exactement les modèles que la vieille économie imposait aussi. Ces inégalités, elles sont centrales, elles sont majeures. Et quand on voit, vous savez, fin de l'année, il y aura un sommet Europe-UA, et c'est vrai que là, l'Internet et l'installation de l'Internet et les réseaux, ce sera aussi un sujet majeur, parce que c'est un sujet central si on veut que l'Afrique continue d'avancer.
Dans la transformation numérique, il y a quelque chose d'important où l'Afrique est en pointe, c'est le mobile banking, c'est-à-dire la banque et l'argent et le paiement sur le téléphone.
Oui, et là, l'Afrique nous donne une leçon à nous, la vieille Europe, parce que pour aider les populations et pour leur permettre de payer via leur smartphone, de payer leur eau, leur électricité, mais aussi de faire des emprunts à la banque, ben un smartphone suffit. Et on voit qu'aujourd'hui, les banques qui ont développé ces produits-là en Afrique, qui sont en fait les opérateurs téléphoniques, pour tout dire, essaient d'amener les choses en Europe. Donc, vous voyez qu'on n'a pas rêvé quand on vous disait que l'Afrique invente des choses et a des leçons à nous donner. Ben, vous en avez un exemple.
Une semaine d'actualité.
La pandémie de Covid-19 nous occupe tous dans le monde. Elle aurait déjà fait plus de 700 000 morts. On recense plus de 18,5 millions de personnes officiellement touchées. Dans de nombreux pays, les cas repartent à la hausse. Certains reconfinent leur population. Le port obligatoire du masque se généralise, et même dans la rue, comme en France, où de nombreuses communes prennent ce type de mesures. Elles ne font pas toujours l'unanimité, comme l'a constaté Alexis Bédu en début de semaine à Lille.
Pour sa marche hebdomadaire dans le plus grand parc lillois, Françoise porte le masque sous le nez. Elle n'apprécie pas cette nouvelle obligation.
C'est débile. Surtout qu'ici, pendant les vacances, il y a très peu de monde. Ici, regardez un peu le monde qu'il y a ici. On dirait la braderie.
Cette Lilloise fait de l'ironie. En effet, très peu de monde dans le parc ce lundi matin. Danielle a tout de même pris sa canne de randonneuse. Elle ne comprend pas cette mesure.
Bah, je disais, bon, dans les grandes surfaces, ou ça, les endroits clos, je veux bien, mais en plein air, comme ça, c'est contraignant.
Ouais. Parce qu'en fin de compte, on a vraiment du mal à respirer avec ça. Hein.
Ça n'a pas empêché Clément d'aller faire ses 45 minutes de footing avec le masque, bien entendu.
On manque un peu d'air, et surtout, c'est un peu toujours le même air qu'on respire, parce qu'il est coincé dans le masque, entre guillemets. Donc c'est pas évident, mais c'est les règles. Je pense qu'ils le font surtout pour les soirs, les samedis après-midi, quand il y a énormément de monde. Il y a tellement de monde le samedi après-midi qui passe. Enfin, c'est logique qu'il faille un port du masque, mais pour courir à 8h du matin, C'est vrai que ça paraît un peu moins utile.
Autre difficulté, connaître les délimitations de secteurs avec ou sans port du masque obligatoire. Les Lillois vont devoir s'imprégner de cette nouvelle carte de leur ville.
Comme il faut peut-être commencer à imaginer porter un masque pendant un certain temps, des chercheurs indiens ont inventé un ingénieux système, bon marché qui plus est, qui permet de laver et décontaminer des masques N95 sans réduire leur efficacité. Une bonne nouvelle à l'échelle de la planète, mais aussi surtout en Inde, où la situation sur le front de la pandémie est préoccupante. Notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, a pu parler avec l'un des scientifiques à l'origine de cette invention.
Le masque N95 constitue l'une des barrières les plus efficaces contre le nouveau coronavirus, car il retient 95% des particules qui circulent dans l'air, tout en nous laissant respirer. Cela est possible car son filtre est parcouru par une charge électrostatique qui attire les particules dans ses filets. Le problème est que quand on nettoie ce masque, cette charge baisse et il ne filtre plus qu'à 70% maximum. L'équipe de l'Institut Tata pour la recherche fondamentale à Bombay a ainsi trouvé une manière de recharger ce masque. Pour cela, ces physiciens ont d'abord utilisé une raquette en plastique électrifié utilisée très largement en Asie pour tuer les moustiques. Shankar Ghosh, le directeur de cette recherche, nous explique sa trouvaille.
Cette raquette est alimentée par une batterie de 4 volts, mais grâce à un petit circuit électronique à l'intérieur, elle déploie un courant de 2 kV dans la raquette. Vous pouvez utiliser ce même circuit bon marché, tirer les fils qui en sortent et les connecter à 2 plaques de métal. Après avoir nettoyé votre masque, vous le placez entre ces 2 plaques comme un grippin. Vous activez le courant et cela va recharger votre masque.
Grâce à cette technique, les chercheurs ont inventé un modèle de masque équipé d'une pile embarquée pour recharger le filtre de manière continue, le smart mask comme ils l'appellent. Ils sont en train d'en déposer le brevet et prévoient ensuite de le commercialiser.
Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé à cause du coronavirus, suivi par le Brésil où les populations amérindiennes sont elles aussi touchées, comme nous l'explique notre correspondant Martin Bernard.
Les 800 000 Amérindiens du Brésil sont particulièrement vulnérables au coronavirus car ils n'ont peu ou pas d'anticorps. Un membre de la Cour suprême a accusé l'armée, qui occupe les postes clés au ministère de la Santé, d'être associée à un génocide. Le vice-président Hamilton Mourão, qui est général, a rejeté cette thèse tout en précisant que l'État avait le devoir de protéger les peuples autochtones.
Notre constitution doit être respectée. Cette histoire de génocide, c'est complètement absurde. Le génocide, c'est ce qu'Hitler a fait avec les Juifs. C'est ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 90. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Brésil.
Le général Mourão assure que la situation des Amérindiens est meilleure que celle du reste de la population brésilienne, que ce soit en pourcentage de personnes contaminées ou en pourcentage de décès provoqués par le coronavirus.
En tout cas, la Cour suprême brésilienne a pris des mesures pour protéger les quelques 800 000 Amérindiens du Brésil. Des Amérindiens notamment touchés cette semaine par la mort d'Aritana, un des grands chefs indigènes de l'Amazonie, mort de la Covid-19. La pandémie a un très fort impact social et économique. La Suède annonce, par exemple, une chute record de son PIB de plus de 8% au deuxième trimestre. L'île Maurice ne compte plus aucun cas actif depuis le week-end dernier, mais les frontières restent fermées avec les conséquences qui en découlent, comme nous l'explique notre correspondant Abdoulaye Rali.
Toutes les activités de l'île tournent à plein régime, excepté le tourisme et l'aviation. Ce coup d'arrêt pèse lourd dans la balance puisque le tourisme représente 23% du produit intérieur brut en comptant les activités indirectes. Ce sont 100 000 personnes directement et indirectement connectées à ce secteur qui vivent dans l'angoisse depuis 4 mois. Elles représentent presque 20% de la population active qui attendent avec impatience la réouverture des frontières. Mais le Premier ministre Pravin Jugnauth a été ferme sur cette question, la santé publique avant tout. Entre-temps, l'État assurera aussi longtemps que nécessaire une allocation mensuelle à l'ensemble des salariés. Le ministre du Tourisme a affirmé pour sa part que la réouverture des frontières présente autant de risques que d'opportunités. Les agences de l'État sont déjà en campagne pour vanter une destination sûre. Elles ont engagé aussi avec le club champion d'Angleterre, Liverpool, un partenariat pour accroître la visibilité de Maurice.
On le rappelle, respectez la distanciation physique, lavez-vous les mains, portez le masque. Le directeur de l'OMS l'a redit cette semaine, il n'y aura peut-être jamais de solution miracle contre la Covid-19 malgré la course au vaccin qui est lancée. Marilyn Baumard, directrice du Monde Afrique, le continent est aussi touché par cette pandémie.
Effectivement, on a cru au début qu'il allait peut-être y échapper, puisque en fait c'est le dernier continent à avoir été touché, mais là on est en train de passer le cap du million de malades, dont la moitié en Afrique du Sud. Et comme le montraient vos reportages là qu'on vient d'entendre, même s'il y a moins de malades en Afrique, c'est vrai que la crise économique, elle, est déjà là et sera très très importante. Les prévisions laissent craindre malheureusement que 50 millions d'Africains tombent dans l'extrême pauvreté suite à cette pandémie. Donc on voit bien que là on est sur des dimensions et sur des conséquences qui peuvent être terribles et c'est un frein malheureusement. Vous voyez, l'histoire est pas linéaire en fait, et l'Afrique avance certes, mais il y a aussi des étapes comme celle qu'on est en train de vivre là qui font qu'elle peut partiellement reculer. On le voit avec le tourisme, les pays sont vraiment gravement touchés sur le sujet, même si un pays comme la Tunisie, par exemple, là, on voit que nos binationaux sont tous rentrés. C'est quelque chose que vous pourrez lire très vite sur Le Monde Afrique. Nos correspondants et nos journalistes s'intéressent à ce sujet.
Alors, dans l'Atlas des Afriques que vous venez nous présenter aujourd'hui, que vous avez co-dirigé et dont RFI et France 24 sont partenaires, ce hors-série qui nous présente l'Afrique dans toute sa complexité et dans toute sa diversité, c'est pour ça que vous avez mis un S, c'est bien l'Atlas des Afriques. Vous consacrez une double page à la santé, mais avec un focus sur la couverture santé universelle, ce qui est pas gagné, ce qui est en route dans certains pays, ce qui est déjà plus ou moins mis en place, mais il y a quand même vraiment des soucis par rapport à la fragilité même des pays en question.
Quand on s'intéresse au développement, on se rend compte qu'il y a deux secteurs qui sont réellement cruciaux, qui sont l'éducation et la santé. L'éducation, c'est parier sur l'avenir. On le voit dans les raisons migratoires, dans les familles, lorsqu'un enfant part ou lorsque le père veut partir, c'est pour que son fils ou sa fille puisse avoir accès à l'éducation, parce que il n'y a pas de mystère et on voit bien que c'est ce qui va permettre de sortir de la pauvreté sur le long terme. Mais la santé, sur le court terme, et justement cette couverture universelle, c'est aussi ce qui va permettre à beaucoup de familles qui sont tangente de ne pas tomber dans la pauvreté. Des familles qui s'en sortent, qui arrivent à survivre et notamment par exemple à payer l'éducation, le jour où il y a un problème de santé, c'est là, ce jour-là, que ces familles tombent dans l'extrême pauvreté. Donc c'est en ça qu'on voit que c'est une des clés du développement. Alors, depuis des années, c'est un des gros soucis de l'UA qui demande, l'Union africaine, qui demande au gouvernement de faire un effort sur ce sujet. Les pays font des efforts sur le sujet. Mais on voit les soucis qu'on a avec nos comptes de la Sécu. Donc, je vous laisse imaginer le poids que c'est pour les pays. Même si tout le monde est convaincu, c'est pas une question de ne pas être convaincu d'où sont les priorités, mais ça coûte très cher et c'est très long à se mettre en place. On a mis du temps aussi à le mettre en place en Europe. Donc, il faut là encore un peu de temps.
Sept jours en Afrique.
Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
À plusieurs moments cette semaine, l'actualité a été rythmée par les célébrations des indépendances africaines. Plusieurs pays ont acquis leur indépendance il y a 60 ans, en 1960. Pour le Burkina Faso, ex-Haute-Volta, c'était mercredi. Cette série d'anniversaires en août a commencé samedi dernier avec le Bénin. Pour le Niger, c'était lundi 3 août. Et la Côte d'Ivoire, c'était hier. Tous ces anniversaires sont notamment l'occasion sur RFI de se souvenir. En Haute-Volta, par exemple, le 5 août 1960, c'était la fête dans les villages. Soumane Touré, le président du Parti de l'indépendance, du travail et de la justice, était très jeune à l'époque. Il a participé au défilé à la fête qui s'en est suivi durant une semaine. Il le raconte au micro de Yaya Boudani.
Le débat sur l'indépendance a commencé dans le village et partout à partir de 1958. Quand Sékou Touré au référendum du 28 septembre à voter non, bon, ben, on disait que ah, il faut que nous aussi, on aille à l'indépendance. La discussion avait lieu. Et les gens savaient ce qu'était que l'indépendance. C'est-à-dire que les Blancs vont partir, nous serons libres, et puis c'est à nous de gérer notre destin.
Les Blancs sont partis, l'indépendance a été proclamée. Comment vous avez vécu cette proclamation-là au niveau du village?
Ce jour-là, on a descendu le drapeau français et puis on a monté le drapeau voltaïque. L'ambiance en tout cas était bonne, on était en fête. Et puis bon, les discussions aussi ont commencé. À nous, les élèves, on disait non, il faut vous instruire, il faut que vous réussissiez. Le pays a besoin de vous, les cadres. Il ne faut pas que ce qu'ils ont fait aux Guinéens, quand les Français sont partis, il ne faut pas que ça nous arrive.
Soumane Touré, à la fin de son témoignage, l'a fait référence au message que la France avait voulu envoyer aux autres pays d'Afrique francophone en retirant son aide financière et ses fonctionnaires de Guinée tout de suite après l'indépendance en 1958 pour montrer que sans les Français, les Guinéens n'y arriveraient pas. Un message qui a été bien entendu a priori dans la région puisque la jeunesse d'alors se dit qu'il faut continuer les études pour former l'élite nationale de demain afin de bien mener le pays par eux-mêmes. Alors Marilyn Baumard, dans l'Atlas des Afriques que vous avez co-dirigé en tant que directrice du Monde Afrique, vous avez bien sûr souhaité consacrer des pages aux indépendances. Et Jean-Pierre Perroulou, qui signe l'article, dit que si la France perd en droit de vastes territoires, elle est la gagnante de cette décolonisation.
Eh oui, parce que en fait, ça coûtait cher et d'essayer de développer ce territoire. Faut se souvenir que entre 49 et 55, la part du budget de la France qui était consacrée au développement de nos colonies à l'époque a doublé, est passé de 5 à 10%. Et souvenons-nous aussi de cette phrase qui est restée célèbre, la Corrèze, avant le Zambèze. Il y a eu toute une montée de gens qui ne voulaient plus vraiment payer pour l'Afrique. Donc ça explique aussi cette décolonisation, pourquoi elle s'est faite à ce moment-là.
Et puis de fortes revendications sur le continent africain, des unités syndicales et une population syndiquée aussi.
Bien sûr.
Qui prend conscience de tout ce qu'elle n'a pas.
Oui.
Et même si après la guerre, la France avait voulu rééquilibrer en donnant plus de droits, plus d'égalité, malgré tout, ces indépendances, les Africains les veulent.
Oui, ça je ne le nie pas du tout, mais on a aussi lâché, il faut pas se leurrer, pour des raisons économiques. On sait bien malheureusement que c'est un petit peu ce qui mène le monde malheureusement. Donc c'est la raison et c'est en cela que la France a laissé aussi un territoire sur lequel il y avait quand même pas des infrastructures hyper développées, parce que tout le boulot de développement, on a beau dire, n'avait pas été fait.
Mais alors après, si c'est la grande gagnante, c'est parce que par le biais du néocolonialisme, oui, et de la fameuse France-Afrique, elle va continuer à tenir les rênes de ses anciennes colonies par différents moyens.
Exactement.
Et que ces anciennes colonies lui sont très utiles, notamment nous, en France, pour avoir de l'énergie.
Ben oui, en fait, ça a créé des marchés complètement exclusifs et ça a ouvert des portes pour nos entreprises. Donc, au final, d'un territoire qui avait un coût, c'est devenu un territoire qui rapportait et c'était présent déjà dans le calcul de ces années-là. Et c'est quelque chose qui a duré longtemps. Et puis, il y a eu la voix politique de tous ces États qui appuient la voix de la France, ce qui fait que ça explique un petit peu ce mythe dans lequel beaucoup de gens et d'hommes politiques sont restés aujourd'hui sur la grandeur de la France qui, en fait, on est un petit État. Et on a beaucoup joué de cette France-Afrique pour essayer de garder symboliquement cette grandeur.
Dans l'Atlas des Afriques, ce hors-série que vous avez co-dirigé et que vous co-publiez avec le magazine La Vie et dont nous sommes partenaires ici à RFI et à France 24, il y a au moins, j'ai pas vraiment compté, mais je crois que c'est vraiment au moins la moitié de l'Atlas qui est consacrée à l'histoire. Parce que justement, avant d'arriver dans l'Afrique du présent que vous sculptez de la même manière, il fallait prendre le temps de bien repartir dans toute cette histoire, qu'elle soit très ancienne ou presque contemporaine, cette histoire du XXe siècle, notamment des indépendances et du néocolonialisme.
Oui, parce que en fait, on n'en serait pas là aujourd'hui et on n'aurait pas aujourd'hui les problèmes que peuvent ressentir, par exemple, tous les populations d'origine africaine qui sont installées ici, s'il n'y avait pas eu cette époque. Donc, rendons-leur aussi, et c'est une des démarches de cet atlas, la grandeur des étapes précédentes, et essayons de rappeler que ça a existé, qu'il y a eu des périodes vraiment fastes, qu'il y a tout un patrimoine historique qui est très très riche, même si malheureusement il y a aussi des choses qui ont été détruites, je pense au Mali notamment.
Au mausolée de Tombouctou.
Tout à fait, tout à fait. Mais il y a toute une histoire qu'il faut réhabiliter et qui doit être réinscrite dans cette chaîne et qui doit être aujourd'hui, c'est un devoir, présente dans nos têtes.
Alors on continuera à célébrer les indépendances africaines sur RFI la semaine prochaine, celle du Tchad, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville et du Gabon. J'imagine que vous allez faire la même chose dans les pages du Monde Afrique. Et toute la semaine, puisqu'on revient à l'actualité, la question c'était celle-là, ira-t-il, ira-t-il pas? Et si oui, quand? Eh bien jeudi soir, lors du discours télévisé à la Nation, la veille de l'anniversaire de l'indépendance, le président ivoirien Alassane Ouattara a officialisé sa candidature pour un troisième mandat. Il invoque un cas de force majeure après la mort inattendue d'Amadou Gon Coulibaly. L'opposition, elle, dénonce une candidature anticonstitutionnelle. La nouvelle de cette entrée dans la course présidentielle d'Alassane Ouattara ravit bien sûr les militants du RHDP, perdus depuis la mort soudaine du Premier ministre et candidat alors désigné, la correspondance de Sidi Yensané.
Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure.
À Abobo, commune populaire d'Abidjan et bastion électoral du RHDP, les militants laissent éclater leur joie sur la place de la mairie à coups de feux d'artifice et de trompettes en plastique, devant l'écran géant qui diffuse l'allocution du président et candidat fraîchement déclaré Alassane Ouattara.
Nous sommes superbement heureux. C'est le message qu'on attendait du président et il vient de réaliser nos souhaits, nos désirs. Et on sait qu'avec le président Alassane Ouattara, c'est un coup de chaos au soir du 31 octobre 2020. Inch'Allah.
Les militants ne semblent pas tenir rigueur à leur champion qui avait pourtant déclaré solennellement se retirer des affaires.
On ne peut pas prendre n'importe qui pour mettre là pendant qu'on a battu un travail pendant 9 ans. Donc si on prend quelqu'un qui n'a pas la maîtrise des choses, je pense qu'on va, au lieu d'avancer, au lieu d'être émergent, on va régresser.
Qui voulait laisser la place aux jeunes et le jeune qui était compétent est parti. On regarde autour de lui, il n'y a pas encore de jeunes qui sont mûrs. Voilà, pour se présenter en tant que président face au candidat comme le Bédier qui connaît des luttes passées. Donc il faut que lui-même il revienne ici pour présenter ce grand défi.
Avec Alassane Ouattara à leur tête, ils ne doutent plus de leur victoire.
Du sport maintenant, pour la première fois, un entraîneur africain a qualifié une équipe pour la prestigieuse Ligue des Champions. Il s'agit du Nigérian Emmanuel Egbo à la tête du KF Tirana, champion d'Albanie pour la première fois depuis 11 ans. Pour l'instant, son équipe n'en est qu'au premier tour de qualification qui aura lieu les 18 et 19 août prochains. Mais l'ancien gardien de but est ambitieux. Bright Abiola nous fait les présentations.
Joie justifiée, Emmanuel Ndoubousi Egbo, 47 ans, le premier Africain entraîneur à qualifier une équipe pour la Champions League européenne. La reconquête du titre a duré 11 ans.
C'est une sensation vraiment spéciale pour moi. J'ai encore beaucoup à apprendre. Arriver jusque-là n'a pas été facile, mais nous allons encore nous améliorer et démontrer que les entraîneurs africains sont aussi très performants. Nous pouvons nous hisser au sommet du foot européen.
Ex-international gardien de but nigérian des Super Eagles avec 12 sélections et ex-sociétaire du club albanais du FK Tirana, Emmanuel Ndoubousi Egbo nous raconte son parcours élogieux.
J'ai été gardien de but à Tirana entre 2001 et 2004, puis j'ai rejoint ensuite le club en 2014 en qualité d'entraîneur adjoint et entraîneur de gardien de but. Puis en 2019, je suis devenu entraîneur principal après le limogeage de mes deux prédécesseurs. Depuis, j'ai repris les commandes et les succès ont suivi. Nous voilà désormais en Ligue des Champions. et le reste appartient à l'histoire.
Emmanuel Ebo est optimiste. Il vise la phase de groupe de la Champions League.
Eh bien, on lui souhaite bonne chance, on y croit. Marilyn Baumard dans l'Atlas des Afriques, le numéro hors série concocté par les rédactions du Monde et de la Vie, deux journaux du même groupe de presse. Vous consacrez aussi des pages au soft power africain, à cette influence douce, et le football fait partie de cette influence douce.
Tout à fait. Et quand je vous entendais dire « c'est la première fois » en lancement, pour parler de ce club, bah, y a plein de premières fois qui sont en train d'advenir en ce moment pour l'Afrique. C'est la première fois qu'un styliste camerounais, Imane Aïssi, intègre le club de la haute couture française. C'est la première fois qu'il y a autant d'œuvres d'artistes africains à la FIAC l'année dernière.
Ça, l'art contemporain africain à la côte en
Mais
ce moment.
Mais oui, c'est formidable. C'est la première fois qu'en termes philosophiques, il y a des ateliers qui sont les ateliers de la pensée montés par Rachid Bembe et Félouine Sarr.
À
voyez,
Dakar.
Donc les premières fois, l'Afrique est vraiment en train d'en inventer une multitude. Pourquoi ? Parce qu'elle commence, elle aussi, à se raconter autrement. Elle se fait confiance à elle-même de plus en plus, et par les artistes, et par l'art, et par le foot, et par la science peut-être demain, elle commence réellement à prendre une place absolument incroyable. Et oui, c'est un soft power. Et oui, il y a des ambassadeurs ici qui sont les gens de la diaspora et qui, eux aussi, commencent à écrire une autre histoire.
Des Africains aussi de plus en plus globalisés qui bougent entre leur pays et d'autres régions du monde et qui sont justement ces ambassadeurs, comme vous le dites, parce qu'ils ont envie de bouger, d'aller ailleurs, de faire connaître cette Afrique. Et dans cet atlas des Afriques, il y a aussi de nombreux entretiens d'Africains, qu'ils soient écrivains, chercheurs, historiens, et tous pratiquement disent « maintenant c'est à nous de prendre notre voie, notre propre voie ».
Exactement, et ça, je trouve que c'est...
Enfin, voix VOIE et voix VOIX.
Tout à fait, les deux homonymes sont de mise, et c'est vrai que là, on sent qu'on est quand même à un tournant, et je pense que l'art, autant au moins que le sport, permet de passer ce cap et de changer complètement cette image, parce que c'est un élément, alors c'est un élément important en France qu'on va peut-être voir si ce qui devait être la saison 2020, vous savez, cette saison artistique et culturelle qui devait présenter l'Afrique aux Français, si elle se déroule en 2021 puisqu'elle a été ajournée à cause du Covid, on arrivera, et là ce sera un accélérateur de ce qu'on est en train de se dire là, et on verra. On découvrira une multitude d'artistes, une multitude d'approches et de richesses de ce continent qu'on est loin d'imaginer aujourd'hui.
Alors dans cet atlas des Afriques, co-dirigé par le Monde Afrique et le magazine La Vie, ce hors-série dont nous sommes partenaires, nous on a beaucoup parlé de choses positives malgré tout dans cette émission, mais tous ceux qui écoutent RFI ou qui lisent le Monde Afrique savent qu'il y a beaucoup d'inégalités sur le continent, que ce n'est pas si simple, mais ce qui est intéressant dans cet atlas, c'est que justement vous n'éludez rien. Ni la pauvreté, ni les inégalités, ni les chefs d'État autoritaires, la dépossession des terres, la spirale infernale de la dette, la convoitise d'un sous-sol très riche. Et c'est ce qui fait qu'il est intéressant. Parce qu'en plus, avec des cartes, c'est très ludique et c'est très vivant à regarder. Et c'est une manière très facile de plonger dans un sujet.
Mais surtout pour toute une génération de jeunes qui sont très visuels. C'est vrai que la cartographie au monde, c'est quelque chose qu'on exploite énormément. On a un service cartographie qui a complètement changé en 10 ans. Et si on prend qu'un exemple, les régimes politiques au banc d'essai. Et ben voilà, vous regardez une carte et vous voyez en rouge les régimes autoritaires. Vous avez tout de suite une vision globale du continent. Donc en fait, on a essayé de développer des niveaux de lecture différents qui font que cette cartographie, elle peut être déjà observée par les collégiens, par les lycéens. Et puis qu'ensuite, on a aussi un mode d'entrée par le texte, parce qu'on reste le monde, on reste la vie, donc on reste aussi des gens de l'écrit, même si on essaie d'être de notre époque. Donc, on a essayé de croiser, vous voyez, toutes ces approches pour que chacun y trouve son compte.
Alors, l'Atlas des Afriques que vous êtes venu nous présenter, Marilyn Baumard, est disponible en kiosque en France, mais où qu'on soit dans le monde, il peut être commandé sur le site du Monde, lemondetoutattaché.fr.
Voilà. Oui.
Un atlas dont RFI et France 24 sont partenaires. Gratuit, le Monde Afrique en ligne, parce
Tout
que vous
fait.
Pensez aussi aux lecteurs africains.
Qui sont une partie importante de notre lectorat, que je salue aujourd'hui. Et on écrit aussi pour nos lecteurs français, pour le lecteur classique du Monde, qu'on n'oublie pas, qui lui aussi a envie de savoir beaucoup de choses sur ce continent.
Merci d'avoir été avec nous, Marilyn Baumard, pour nous présenter cet atlas des Afriques aujourd'hui.
Merci Ludovic.
Cette émission a été réalisée par Sophie Janin. Comment le monde va-t-il bouger dans les 7 jours qui viennent? Nous verrons cela ensemble, même lieu, même heure, samedi prochain, dans une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.